Matière à penser, Frédéric Worms.
France Culture, ce soir Matière à penser, ce soir notre troisième rencontre autour de l'inconscient européen et je suis très heureux et même un peu ému de rencontrer Michel Deguy. L'inconscient européen, ce sont des spectres qui hantent l'Europe, des spectres inconscients qui définissent l'Europe d'aujourd'hui, et ce sont aussi les moyens de les affronter. Il y a bien sûr la psychanalyse, des discours thérapeutiques, il y a bien sûr la clarté de la philosophie, la clarté de l'analyse historique. Il nous faut aussi ce que Michel Deguy appelle la clairvoyance des poètes. Bonsoir Michel Deguy.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci infiniment d'être venu ce soir pour parler, si vous le voulez bien, si vous jugez l'expression pertinente, de l'inconscient européen. Vous croisez ces questions, en tout cas récemment, après des multiples textes poétiques, théoriques qui les rencontrent. Récemment, donc dans la revue que vous avez créée, que vous dirigez, Poésie, aux éditions Belin, vous venez de publier deux volumes successifs, Trans-Europe. Europe éclaire, et on a l'impression que la poésie cherche à éclairer l'Europe. Et puis il y a vos livres, évidemment, personnels, et notamment chez Hermann, l'an dernier aussi, en 2017, L'envergure des comparses, écologie et poétique. Est-ce que, dans la revue, par exemple, dans votre revue, dans votre collectif Poésie, quel a été votre souci? Est-ce que c'est d'aller chercher ce qui travaille l'Europe aujourd'hui et la poésie comme outil de détection?
Oui, dans cet ensemble récent, Trans-Europe éclair, T-E-R, c'est parce que je pense que l'Europe est à nouveau en péril. Et alors, c'est dans cette vue-là. Alors, clairvoyance, vous avez employé ça tout à l'heure.
Vous l'employez souvent, ce mot clairvoyance, Michel
Deguy.
Oui,
mais alors, en prenant soin de dire ceci, la clairvoyance est ce qui s'avise des voyants. C'est-à-dire, le poète n'est plus un voyant comme il l'a passé pour l'être, il l'a été, etc. Mais les voyants sont les voyants qui s'allument, les feux rouges qui s'allument et qu'il faut détecter. C'est-à-dire la menace qui arrive, qui est une menace considérable, et c'est en passant, c'est-à-dire, on peut dire ça, oui. Enfin, je ne sais pas s'il faut commencer par des propos catastrophistes, mais enfin, d'une certaine manière, l'Europe est menacé aujourd'hui, d'une certaine façon.
Mais peut-être même par plus d'une menace, plus d'un voyant.
Plus d'une menace, beaucoup plus d'un voyant, et en particulier ces temps-ci par au fond, quelque chose comme un risque qui pèse sur la démocratie. Un risque qui pèse sur la démocratie, l'état de droit. Autrement dit, il y a à la fois du sans précédent, je crois beaucoup, c'est une de mes formules favorites, le sans précédent, sans précédent, et en même temps, si on peut dire, ou à la fois, cette fois dans le sens l'autre en même temps, et en même temps de vieux, alors
de la répétition pour faire retour,
des mots pour faire vite, mais ça, n'oublions pas que ce pays, la France, a été un pays qui a renoncé à la démocratie pendant pas mal de temps, qui a été un État français, c'est dans la mémoire. Il y a un risque d'abaissement. Et le trans-Europe, ça ne veut pas dire que l'Europe tombe d'en haut du ciel ou je ne sais quoi, mais c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire, il faut toujours penser à, disons, l'échelle supérieure. L'homme est. Je me rappelle à propos de Maria Zambrano, poète, philosophe espagnol.
Poète
beaucoup.
Et philosophe.
Ah, oui. L'homme est l'être qui pâtit sa propre transcendance. C'est-à-dire, c'est un mouvement d'ascension. Viser l'échelon supérieur, le bien plus général, le bien plus commun, le viser par un effort qui est nous, qui ne tombe pas du ciel. L'homme passe infiniment l'homme. Alors, c'est ça ce mouvement. Ce mouvement qui fait que nous avons, dans cette revue Poésie, elle a 40 ans, consacré les numéros, donc 160 et 160, en fait 500 pages.
500 pages.
500 pages
à l'Europe.
Vous avez vu d'une variété énorme.
Une variété extraordinaire avec des poèmes au sens littéral du terme et des proses au sens non moins littéral. Oui. Michel Deguy, vous disiez, le poète n'est pas un voyant, mais il voit les voyants s'allumer. Oui. Et malgré tout, il y a ces voyants politiques. La démocratie qui est au rouge vif, les voyants écologiques sur lesquels vous avez beaucoup écrit. Il y a aussi des voyants de perte du rapport à la culture, le culturel qui remplace la culture. Mais pourquoi est-ce que ce sont les poètes qui voient les voyants? Il y a quand même aussi un petit côté voyant au sens subjectif. C'est pas parce que tout le monde pourrait les voir. Oui.
Non, je mettrai pas, si vous voulez, les poètes.
Il y a pas de privilège.
Tout à fait à part.
D'accord.
Je vous appelle ça la littérature.
D'accord.
Alors la question massive est la suivante: la connaissance scientifique, d'une part, s'est emparé de tout. Mmh. Bon, je ne m'emploierai pas des termes heideggeriens, mais enfin, si vous voulez, le Gestell, la technique,
la domination,
la connaissance
que Heidegger critiquait dans la
connaissance.
Science.
Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que devient ce que j'appelle maintenant la reconnaissance? Mmh. C'est-à-dire, qui n'est pas la connaissance scientifique, qui est la littérature et même, disons, les arts. Autrefois, on aurait dit les muses, qui sont là, qui dansent comme chez Matisse. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec la... Alors, je vais prendre un exemple, si vous voulez. Un exemple pour me faire comprendre, et qui nous amène à l'écologie. Hein. Les médias, les journaux, enfin, disons, le discours commun ou l'opinion commune, parlent volontiers de la planète.
Oui.
Bon, alors il s'agit de la différence entre la Terre et la planète.
Voilà.
Voilà. Alors la Terre.
Finalement, le mot compte. Le mot, il faut pas se tromper de mot.
Ah non, c'est fondamental. Parce que la planète, c'est ce qu'on voit quand on est du ciel, quand on est sorti de la Terre, quand on s'est déterrestré. Et la question que pose l'écologie, je dis éco-poétique, c'est la question de la reterrestration. Que faire pour demeurer attaché à la Terre? Les nourritures terrestres, disait Gide, elles sont toujours là ou ne sont-elles plus toujours là? C'est la question. Et alors c'est la question qui fait que, pour moi, si vous voulez, l'écologie, c'est même la première chose que je pourrais dire sur un ton, bon, évidemment, catastrophique si vous voulez, mais enfin, si on ne prend pas, et on continue à ne pas la prendre au sérieux, l'écologie radicale, nous savons que la Terre est usée au sixième mois de l'année et qu'on va dans le mur. Ce qui veut dire qu'il faudrait une conversion, un renversement complet de l'économie complète. Bon, sous peine de, eh bien, de fin du monde, si vous voulez.
Mais alors, Michel Deguy, vous venez de montrer aussi l'importance du poétique, c'est-à-dire qui contredit peut-être pas la science. Je voudrais juste préciser ce point, parce que c'est quand même la science qui nous dit, par exemple, qu'il faut absolument baisser notre consommation de carbone, qu'en effet, au bout de six mois, nous avons déjà utilisé les ressources de la Terre pour une année. Ouais. Mais qu'ajoute l'écrivain, la littérature? Est-ce que c'est une capacité de nous faire sentir la catastrophe, alors que le savant la calcule simplement? Est-ce que
mais
c'est
moi,
une manière de nous
vous
mettre
savez...
dans l'expérience même déjà de ce qui peut arriver pour nous alerter?
Bah, Frédéric, moi je mets les choses carrément à l'inverse, si vous voulez, au moins chronologiquement, c'est-à-dire que je pense que l'inquiétude profonde vis-à-vis de la Terre et de ce que peut faire l'art, appelons ça l'art, est une inquiétude qui ne vient pas des savants. Les savants sont là, ils nous disent voilà les mesures qu'il faut prendre, on les prendra pas, on les
c'est
prendra
pas. C'est déjà pas mal.
Non, c'est l'inquiétude, la clairvoyance, si vous voulez, le propos écho. Alors, à ce propos-là, je dirais que pour moi, ce qui compte terriblement aujourd'hui, c'est donc pas la poésie et en tant que telle, c'est ce que j'appelle la poétique, c'est-à-dire la relation, l'étroite relation depuis des siècles entre poésie et philosophie, ce qui n'est ni philosophème à proprement parler, ni poème à proprement parler, mais qui est au fond l'attachement profond à notre langue vernaculaire dans laquelle finalement s'exprime, parle et la philosophie et la poésie. Hein. Et je me rappelle ici Anna Arendt qui disait au fond je n'ai qu'une seule langue, si on veut, ma langue maternelle dans laquelle je pense, la pensée. Hein. Alors nous sommes des êtres parlants, comme dit Jean-Claude Milner, et pas seulement lui. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive à tout ça? C'est ça qui est menacé. Et donc l'inquiétude, je crois, part de ce côté-ci.
Et finalement, Michel Deguy, vous venez de faire un raccourci saisissant entre deux des catastrophes que vous dénoncez. Il y a des catastrophes, finalement, sur la Terre, qui menacent la Terre. Et puis, il y a des catastrophes dans le langage, dans la culture.
Bien sûr.
Cette perte, précisément, de ce que vous venez de décrire très profondément en quelques mots.
Oui.
C'est cette perte du rapport au langage, au sens, qui est indissociablement métaphorique et théorique, poétique et philosophique. Et là, vous dénoncez depuis longtemps aussi la déperdition de ce sens dans ce qui est le culturel, dans la publicité. Et j'ai l'impression que dans votre œuvre, il y a ce télescopage de ces deux catastrophes.
Oui.
Une catastrophe dans la culture, oui. qui accompagne une catastrophe dans la nature, une catastrophe dans le langage, qui accompagne oui. une catastrophe dans, sur la Terre.
Oui, je pense, si vous voulez, que le phénomène culturel
voilà.
est un phénomène total, social.
Et ce qu'on appelle le culturel, quoi.
Le culturel, qu'on a maintenant, on dans une manière allemande, que j'ai finalement le neutre, date. Le culturel, qu'est-ce que c'est que le culturel? Le culturel a remplacé, je ne sais pas, si c'est substitué peu à peu à la culture. Alors, on pourrait montrer ça dans d'innombrables détails. C'est la patrimonialisation de tout ce qui est au nom de son identité en ADN. Il y a une espèce de nouveau paradigme qui s'est installé partout, qui fait que la destruction créatrice, enfin l'emploi, la patrimonialisation de tout ce qui est en tant que expression, disons, phénotypique d'un génotype qui serait plus ou moins au fond racial.
C'est la réduction de l'être à sortir une essence biologique.
Et oui. Ouais. Et ce que nous avons appelé, ce que nous continuons à appeler la culture. Est en quelque sorte passé en arrière. Je dis parfois que le culturel, c'est ce qui reste quand on a oublié, et que la culture, c'est tout ce qui reste quand on a oublié.
Mais Michel de Guy, dans le culturel, il n'y a pas seulement un réductionnisme scientifique dans votre travail depuis longtemps. Il y a aussi la critique, finalement, des médias, de la publicité, d'une sorte de culturel comme ce que d'autres auraient appelé la distraction, le divertissement, l'industrie culturelle par opposition à la pratique du langage, à l'écoute des mots.
Oui, c'est même, si vous voulez, plus grave que ça. Je pense qu'au fond, la publicité, voilà. et comme on est loin du langage kantien, du public, la publicité, c'est la croyance économique, j'allais dire, universelle. Autrement dit, sur quoi tout le monde est d'accord? Consommation, croissance par la consommation et donc relance de la consommation par la novation, c'est-à-dire par le message publicitaire. Mmh. Le publicité doit relancer la publicité, je veux dire, demain c'est beaucoup mieux.
Une fuite en avant permanente.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que la publicité? La publicité était essentiellement mensongère. C'est-à-dire que la publicité ne dit rien de vrai ni rien de faux, elle est exactement fake news. C'est elle qui a inventé tout ça. C'est-à-dire, on vous dit L'Oréal l'a plus blanc, ou je ne sais plus, etc. C'est une affirmation. Non. C'est la relance permanente de la consommation par la croissance. Et c'est cela qui emporte l'économie mondiale. Donc, la résistance à cet égard, en tous les cas, l'essai de clairvoyance sur tout ça, ça fait partie du travail de la pensée qui pense le menaçant et qui pense donc éco-poétiquement.
Mais justement, c'est ce que je trouve depuis longtemps fondamental dans votre double approche. C'est-à-dire, quand vous dites éco-poétique, et parfois vous ajoutez le H de la morale dans l'éthique, on peut avoir l'impression d'un collage un peu superficiel. Oui. Et c'est justement, je voudrais revenir sur le lien entre ces deux catastrophes, c'est-à-dire la menace sur la nature et la menace sur le langage, comme étant finalement pour vous une seule et même menace.
Oui. Alors, peut-être qu'il me vient un vieux souvenir de Mallarmé. La nature a eu lieu. On n'y ajoutera pas. Alors, nous sommes, si vous voulez, la nature a eu lieu. Il n'y a pas du tout d'un côté, on peut dire, la nature qui est toujours là, la nature est là, qui t'approche et qui t'aime. Je ne sais plus si c'est Alfred de Vigny ou quelque chose comme ça.
C'est Lamartine, je crois.
Lamartine.
Mais la nature est là, qui t'invite et qui t'aime. Quand tout change pour toi, comme ça. Elle ne change pas, elle est toujours là à nous accueillir.
Exactement. Or, ça n'est pas vrai, c'est fini. La nature a eu lieu. Alors...
Donc, il n'y a plus de nature éternelle pour l'homme qui change.
La nature, c'est entièrement la connaissance. Entièrement, c'est ce que la connaissance en fait. Alors, autrefois, récemment, je pense aux philosophes, il y avait une certaine manière qu'on pourrait appeler de diplopie. C'est-à-dire, je ne vais pas employer du langage heideggerien, mais c'est-à-dire une manière de dire, la Lune, prenons la Lune comme exemple. La Lune, c'est un corps céleste sur lequel la connaissance scientifique, les hommes sont arrivés, etc. Et c'est d'autre part le Pierrot lunaire, Schoenberg, tout ce que vous voulez, c'est la Lune, les deux. Alors l'un...
Il y avait deux personnages. Comme disait Bachelard, l'homme de la science et l'homme du poème, l'homme du jour et l'homme de la nuit.
Mais ce temps, disons, assez agréable de compagnonnage n'est plus. Il est menacé. Donc, il faut... C'est pour ça que je dis la reconnaissance... Je pense aussi évidemment à Proust, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est quand Proust dit par exemple de sa vision éblouissante à la fin, quand elle dit qu'elle rend la mort même égale, c'était Venise. Il la nomme. Mmh. Il la nomme. C'est-à-dire que la vision est nommée dans un nom, dans une phrase, c'est-à-dire dans la pensée qui parle. C'est ça la reconnaissance. Sommes-nous, comment continuer à être capable de cette reconnaissance, de cet attachement terrestre à la magnitude, comme je dis parfois, à la vastitude, bref, à une certaine reterrestration, c'est la question.
La Terre a besoin du langage, de l'écriture et inversement.
Oui.
Alors vous venez de citer Proust dans votre livre « L'envergure des comparses » qui est une sorte de recueil de figures qui nous réintroduit au monde. Michel Deguy, oui, dans ce livre,
oui,
qui est paru en 2017, vous avez un petit chapitre intitulé « Adieu Venise ».
Oui.
Et qui parle de l'Europe, et presque
oui,
au passé. Dans votre...
oui.
Alors, je m'accroche à ça, puisque vous venez de citer,
oui,
Proust.
Ah, d'accord.
Et je vous cite Michel Deguy, vous dites, du 14e au 21e siècle, et on a l'impression que c'est fini, l'Europe aura été, la phase magnifique de l'humanité. Tout ici, c'est-à-dire à Venise, résumé, tangible. Architecture, institutions, beautés espacées, ingéniosités associées, splendeur. Et tout est achevé. Adieu Venise, est-ce que vous pensez que cette capacité de l'Europe à relier la culture et la terre, l'eau et,
oui,
et les palais,
alors,
c'est fini, c'est,
non,
l'Europe
si
ne
je...
peut pas résister à cette double catastrophe?
Alors, si je pensais que c'était totalement épuisé, c'est à peine si je serais venu dans votre émission, je pense qu'il y a, c'est peut-être un optimisme excessif, il y a toujours une ressource, une réserve, mais pas une réserve.
Vous me rassurez quand même.
Les Indiens au pi ou je ne sais quoi.
Non.
Non, une réserve, une possibilité. Une possibilité. Dans la disruption, que tu as des mots de Stigler, beaucoup, la mutation en cours. Alors, pourquoi je pensais à Venise? Tout simplement parce que le dernier voyage à Venise, comme tout le monde en fait, attendez. Venise est menacée non pas par les eaux, mais par le tourisme international, comme on le sait. Et qu'est-ce que c'est que le tourisme? C'est-à-dire, le tourisme a lui-même changé en peu de temps d'aspect, on va dire, d'aspect. C'est-à-dire, j'ai été frappé, comme tout le monde, par le fait que le touriste est quelqu'un qui prend des selfies de sa famille et lui devant l'Academia.
Mais qui
n'y entre pas.
Parce qu'il vous décrivez ça magistralement en deux paragraphes. J'ai cité aussi un petit début de paragraphe.
Oui.
Sur le pont Rialto, donc on est à Venise.
Oui.
De loin, à ton arrivée, Diesel, c'est-à-dire une marque de jean.
Oui, oui.
En 20 mètres de hauteur, une marque. Oui. Venise est une énorme boutique de luxe et de pacotille, de faux. Venise est un aéroport prolongé, étendu. Et votre dernière phrase, serait-ce ici que l'humanité devenue touristique est exposée?
Donc, je pense que
c'est un risque, mais
oui,
vous le dénoncez parce que vous dites qu'il y a des ressources.
Le tourisme, c'est un des aspects, un des épiphénomènes de ce qu'on appelle le culturel. Qu'est-ce que peut, que faire? Demandait Lénine. Réponse. Partez en croisière pour occuper le temps et allez là, ou même comme disent les publicités, choisissez votre mythe, venez en Grèce, etc. C'est ça le culturel, c'est un profond oubli du passé. Donc, la reconnaissance de ce genre-là, de cette menace et la tentative pour refaire de la reconnaissance, si vous voulez, c'est ça l'espérance, quoi. C'est-à-dire, autrement dit, résilier à l'égard de ce que j'appelle le phénomène social total du culturel qui nous emporte. Alors, peut-être qu'on est dans une phase, c'est ma crainte, dans une phase qui est déjà d'une certaine manière irréparable. Y a-t-il de l'irréparable? C'est le problème. Hein.
Ouais. Il y a de l'irréparable quand ça a eu lieu. La question, c'est est-ce qu'on peut encore éviter que...
Oui, j'ai tendance à croire que, comme je dis parfois, c'est la définition du mal dans mon éthique, c'est le mal est ce qui a eu lieu. Le mal a eu lieu, on dit oui, le mal est ce qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'irréparable, et c'est ce qu'on voit dans tous les innombrables exemples. Alors l'envergure des comparses, c'était une manière... aussi de se rapporter à la philosophie. Je pensais au ce que les philosophes, certains en tous les cas, appellent le cadran ou le quadripartite, c'est-à-dire la terre, le ciel, les hommes et les dieux. Alors, pouvons-nous, dans quelle mesure pouvons-nous encore parler, établir un rapport ciel-terre-mortel sans les dieux? Dieu, d'une certaine manière, alors là, je m'avance un peu, évidemment, mais Dieu... lui aussi a eu lieu. Le sujet nommé Dieu a quitté l'histoire. Alors, bien entendu, quand tout le monde entend ça, c'est comment, c'est le contraire. Oui, mais c'est la sortie du religieux, comme dit l'autre, est invincible.
Peut-être que Dieu est mort, Michel Deguy, mais peut-être que ce qu'il a remplacé, c'est l'opposition entre la vie et la mort. Ciel, terre, vie et mort, on en reparle oui. dans un instant, après avoir écouté le morceau que vous nous avez apporté à entendre, à mener, oui, pour oui. qu'on l'entende, Michel Deguy, et dont vous nous direz dans un instant d'où est venu le texte que chante ici Rodolphe Burger.
Oui. Tu ne tueras pas ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas ni à Srebrenica, ni à Tel Aviv, ni à Jenin, ni à Alep, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. Tu ne tueras pas pour le tiroir caisse de la boulangère. Tu ne tueras pas pour l'adrénaline ou pour le flash. Tu ne tueras pas pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, toujours notre troisième discussion autour de l'inconscient européen. Ce soir, avec le grand plaisir, l'honneur de discuter avec Michel Deguy, dont la quatrième de couverture de son dernier livre dit qu'il est un philosophe, poète et essayiste français, avec qui nous allons reparler des spectres qui hantent l'Europe et qui a, je crois, écrit les paroles qu'on vient d'entendre, Michel Deguy, dans la voix de Rodolphe Burger. Est-ce que ce qu'il chante, ce sont des mots que vous lui avez donnés à chanter ?
Oui, j'ai écrit dans mes œuvres, si vous voulez, mes ouvrages, une seule chanson. Et d'ailleurs, que j'avais à l'époque, tout à coup dédié, je crois, à Jacques Brel, je ne sais plus très bien, une seule chanson, c'est-à-dire, et ça s'appelait « Tu ne tueras pas ».
Bon, tu ne tueras pas.
C'est une chanson, c'est une chanson,
c'est... Hein, et... C'est pas n'importe quel titre, quand même.
Non, 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 bien entendu. Alors, Rodolphe Burger... je crois que je lui ai envoyé, non c'est peut-être Jean-Luc Nancy qui nous a mis en rapport à ce moment-là, enfin bref, il a aimé cela et il l'a intégré avec, pour moi, une grande, ça m'a fait très plaisir, dans son album, je crois c'est le dernier, voilà, c'est l'histoire du, c'est sûr qu'une chanson, hein, chanson, parce que c'est pas, si vous voulez, c'est différent d'un poème.
Alors quelle est la différence, est-ce que vous feriez, Michel Deguy, c'est une différence dans l'écriture, dans la pensée même d'écrire, on n'écrit pas de la même façon.
C'est différent. Oui, que dire ça, sans remuer le trop la question difficile du poème aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il a besoin, le poème qui comporte sa propre poétique, c'est l'inquiétude sur son sens, le poème est obscur, le poème est difficile, le poème cherche à montrer, à faire voir ce que j'appelle souvent le peu visible, c'est pas du tout l'invisible, l'invisible, c'est ce qui est peu visible. Alors, on va pas rentrer, si vous voulez, à l'instant dans cette affaire, le dernier, par exemple, des derniers grands poètes européens, Paul Celan est en même temps un des poètes les plus obscurs qui soit, et même l'illisibilité, la difficulté, qui donne d'ailleurs à des gens comme Jean-Pierre Lefebvre des magnifiques commentaires, etc. Mais c'est un poète, c'est une poésie extrêmement difficile. Ça veut dire, il y a
alors que la chanson,
non, la chanson doit emporter immédiatement une certaine adhésion, un certain plaisir immédiat, des propositions. disons, non problématique ou pas trop problématique.
Mais alors, Michel Deguy, il y a le poème et la chanson, et on reviendra sur « Tu ne tueras pas ». Pourquoi est-ce que c'est ce mot qui vous est venu pour une chanson et non pas un poème? Dans le numéro de la revue Poésie, le deuxième volume, Trans-Europe Éclair 2, le numéro 162, oui. Vous avez écrit justement sous deux régimes d'écriture, je dirais. Vous ouvrez le numéro par un poème.
Oui.
Je vais en citer les premiers vers. Il s'intitule « La bonne année ». Je vais si bien que vais mourir dans les termes de l'été, dans les termes avec un H. Hein.
Oui.
Et à la fin, vous concluez le volume par un très beau texte de 3 pages intitulé « Thomas Mann, Moïse et l'Europe ».
Oui.
Et vous parlez de ces spectres qui hantent l'Europe.
Oui.
Et vous dites « Un spectre hante l'Europe ». Celui du nazisme, et vous évoquez les moyens de dépasser ces spectres qui hantent l'inconscient de l'Europe. Michel Deguy, quand même, quel rapport entre le poème et les spectres qui hantent l'Europe? Vous citiez Paul Celan. Si sa poésie est difficile, c'est parce qu'il a été brisé par ces spectres, avant même que ce soit des spectres, par la réalité qui est devenue spectrale.
Oui,
par le nazisme, pour ne pas le nommer.
Je ne sais pas si on peut dire parce que.
Ouais.
Parce qu'il y a dit de mon bras.
Son rapport à la langue allemande, malgré tout, il y a un peu un parce que dans son rapport à la langue allemande.
Oui, d'accord. Mais en même temps, la poésie n'a pas cessé de continuer sous une autre forme, heureusement.
Bien sûr.
Malgré après Auschwitz. Alors, spectre, vous comprenez, l'extermination des Juifs d'Europe est un événement sans précédent, absolument sans précédent. Premier génocide que j'associe maintenant d'ailleurs avec le géocide, et qui, je ne sais pas si l'Europe s'en relèvera. Mmh. Et je n'oublie pas, c'est vraiment la question, et je n'oublie pas que la France a quitté à ce moment-là, de manière, on peut dire maintenant, honteuse, stupéfiante, par asservissement, elle a quitté sa nature de république, de vieille démocratie, etc. Et d'une certaine façon, je n'entre pas ça non plus, je n'entre pas dans l'actualité la plus brûlante, mais il y a une menace là une menace d'abaissement, une menace d'oubli, menace d'oubli de ce qui fait que donc je continue à faire la splendeur, c'est à quoi je faisais allusion, la splendeur des lumières, c'est-à-dire Kant. Et dans ce volume, j'ai écrit un papier, vous avez peut-être regardé, qui était le devenir Kaliningrad de Königsberg.
Et ça, c'est dans le premier volume, effectivement.
Dans le premier volume.
Oui, oui.
Ça a été tellement extraordinaire. Königsberg, qui devrait être la capitale de l'Europe, de Kant, est devenu, apporte maintenant le nom du chef d'État soviétique, un des grands tueurs de l'histoire.
Oui, la ville du philosophe allemand, prussien, Kant, qui est très au nord de l'Allemagne,
et oui.
À la pointe, qui est devenue une enclave russe dans l'Europe, sous le nom de Kaliningrad. Il y a eu aussi tout près de là la bataille d'Eylau. Donc il y a Kant, il y a Napoléon, et maintenant Kalinin, et peut-être Poutine, qui en a fait une base russe.
Ça, c'est
un des lieux stratégiques, finalement.
C'est des marques de l'abandon de l'Europe. Et disons, d'une certaine manière, Trump, aujourd'hui, il continue à chercher à abaisser, à sortir de l'Europe. Je dis, d'une certaine manière, il continue, parce que je n'oublie pas que cette concession de la ville de Kant aux soviétiques a été le fait d'un président américain aussi. Donc, d'une certaine manière, et c'est tout ça qui est en cause et qui est en question, que des spectres nombreux, mais celui-ci hante l'Europe, à savoir de sa propre abaissement, sa propre disparition, sa propre menace. Oui,
c'est très important ce que vous dites, Michel Deguy, je crois, de ne pas seulement imputer la catastrophe à l'événement extérieur, mais une chute intérieure, un abaissement, et pas seulement un abaissement interne.
Ah oui, non, mais c'est ça qui est grave, c'est l'abaissement interne. C'est l'extérieur a toujours eu des guerres, l'humanité a passé son temps à se massacrer, comme disait Canetti. Mais la nouvelle forme d'extermination, je ne sais pas si l'Europe se relèvera, c'est quand même l'invention des Allemands. Je dis des Allemands, attention. Parce que n'oublions pas que 80% des Allemands...
Vous dites des nazis, justement.
Étaient hitlériens. Hitler, c'était Hitler a massacré, détruit l'Europe pendant des dizaines d'années. et avec le non seulement l'accord, mais enfin bon.
Alors justement, Michel Deguy, vous dites, vous reprenez cette expression, un spectre hante l'Europe. Vous dites c'est celui du nazisme avec très précisément cette extermination.
Oui.
Et peut-on s'en relever? Cette expression un spectre hante l'Europe, elle vient au départ au 19e siècle sous la plume de Marx pour
oui.
dire le spectre de la révolution,
bien
du communisme.
Oui.
Celui qui a été un de vos compagnons d'écriture et de pensée, Jacques Derrida, avait écrit Spectre de Marx.
Spectre de
Il
Marx.
Avait pensé une Europe spectrale, justement,
oui,
avec une dimension
oui.
des spectres. Est-ce que vous reprenez, comme Derrida, cette idée que le spectre, ça n'est pas du tout quelque chose de secondaire, quelque chose qui serait disparu et qu'on pourrait éliminer? C'est au contraire peut-être la réalité la plus importante du moment.
Oui.
Derrida, alors, quand il parlait du
oui,
spectre, c'était justement
oui.
pour dire, voilà, oui. ce dont on croit qu'il a disparu, c'est ça qui est le plus présent.
Oui. Alors, Derrida fait une distinction formidable entre avenir et à-venir. Et d'une certaine manière, il maintenait, on peut dire ça d'une forme un peu, peut-être un peu trop simple, il maintenait un certain optimisme, c'est-à-dire en pensant que l'avenir pouvait l'autre cap, c'est-à-dire avenir, pouvait en quelque sorte, enfin, ménager à l'homme, finalement, à l'homme, une possibilité d'invention, d'imaginer, forces imaginatives, qui sont aussi celles du droit, comme dit Mireille Latour, des masses parties, voilà, enfin, d'imagination. Il y a tout ça, c'est tout à fait important. Mais enfin,
c'est un avenir, Michel Deguy, comme vous le reprenez très profondément à Derrida, qui n'a pas un contenu a priori, c'est pas la promesse d'un avenir déterminé, c'est juste la possibilité
de l'avenir.
De l'avenir.
Souvent, si nous considérons l'Europe d'aujourd'hui, nous voyons qu'elle a tendance, avec son Europe de centrale ou l'Europe de l'Est, à ne pas exactement se rapprocher, disons, se rapprocher, disons, en quelque sorte, menace qu'on peut appeler l'état de droit.
Pour suivre vos images très profondes, Michel Deguy, votre rapport même aux images, hein, vous dites que le poète est l'être qui, quand même, passe par la figure, par l'image.
Oui.
L'inverse de l'abaissement, c'est ce que vous appelez se relever. Je vous cite, parce que dans votre phrase là, de la fin de ce deuxième volume de la revue Poésie, il y a tout ce qu'on vient d'entendre qui est repris. Se relever est l'obstination inverse, finalement, de l'abaissement, qui contrecarre, en la contredisant, cette régression par une relève non hegélienne, non dialectique, non spiritualiste, que j'appellerais ici de transcendance horizontale, vous dites,
voilà.
Donc pas verticale,
non,
mais il y a quand même quelque chose qui nous attire,
bien
à
sûr.
Venir, sans aucun secours retour du religieux, ni du romantisme, trans-Europe, éclaire, la question continue, je dirais.
Oui.
Alors, l'Europe, là-dedans, vous pensez qu'elle peut se relever quand même, malgré tout, vous dites... Vous n'êtes pas sûr, finalement, vous posez la question.
Non, attendez, de moins en moins sûr, vraiment de moins en moins sûr, avec tous les signes qui nous accablent en ce moment. Voilà, l'Europe, c'est-à-dire son attachement. Parce qu'il y a quand même une c'est pas une repentance, c'est une pénitence, un regard que l'Europe jette sur elle-même, sur les turpitudes insensées de l'Europe, bien entendu aussi, toute l'histoire, justement, des siècles en question, qui fait qu'il y a un manque de, comment dire ça, un manque, peut-être un manque d'espoir d'être à la hauteur de, on va dire, de la paix, tiens. Je pense tout à coup, justement, à des gens extraordinaires comme Obama ou Nelson Mandela, qui continuaient à espérer, à faire des discours de paix, c'est-à-dire de désarmement. Hein. Alors, c'est cette espèce d'espérance-là que je continue à manier, mais en y croyant, en espérant de moins en moins l'espoir, l'énergie du désespoir, j'avais appelé comme ça mes livres, est ce qui m'anime constamment.
Mais vous n'êtes pas tout seul, Michel Deguy, votre revue est un immense collectif, et notamment ces deux volumes.
Oh oui.
On avait discuté dans une précédente émission avec Guillaume Métayer de l'Europe multilingue, de l'Europe des passeurs, de l'Europe des rivières, de l'Europe de tous ces invités que vous faites circuler. Dans vos deux volumes, il y a toutes les langues, potentiellement évidemment traduites aussi, c'est le rôle de la traduction.
Oui.
Est-ce que vous placez votre énergie du désespoir et votre espoir, malgré tout, dans ces passeurs européens, dans ces Européens au pluriel, dans ces écrivains, ces poètes, jeunes ou moins jeunes ?
Bien entendu.
Ils existent quand même, ils sont là avec vous.
Ils existent, oui, d'accord. Avec la difficulté, si vous voulez, par rapport justement à la poésie. C'est-à-dire que je ne crois pas que la poésie soit faite pour exprimer, pour l'expressivité d'un senti ou d'un ressenti. Mais en même temps, chacun est libre. Comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la poésie performance, la poésie expressive, la poésie... Oui, la poésie où le ressenti, l'autobio, l'autofiction passe, n'est pas. Encore une fois, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais en même temps, ça n'est pas dans ce côté-là que l'effort, que là, on va appeler ça, ça fait un peu vieillot, peu importe, la grande poésie, puisqu'on a parlé de Paul Celan et des choses comme ça, doit continuer à passer, ou des poètes comme Rilke, enfin, les grands poètes européens, qu'il faut quand même continuer, je crois, à distinguer de,
du culturel, quoi.
Du culturel,
comme
si vous
dites toujours,
oui,
très précisément.
Le poète n'est pas dans le culturel. Du culturel.
Certains poètes, mais est-ce qu'ils sont encore poètes s'ils sont dans le culturel?
Peut-être, ils le sont en même temps. Il ne s'agit pas de mépriser qui que ce soit, mais enfin, disons, le marché de la poésie, la foire de la poésie, là, c'est l'assignation précisément à un rôle culturel dans la société aujourd'hui, un rôle secondaire, etc.
Mais, quel rôle est-ce que vous attribuez, Michel Deguy, dans ces deux volumes collectifs de votre revue, à la pluralité des langues? Est-ce que Derrida, pour revenir à lui, appelait plus d'une langue? Cet espacement, ce désenfermement de la langue dans la pluralité, est-ce que pour vous, c'est quand même une des ressources de l'Europe?
Bien entendu, puisque notre revue, qu'est-ce que c'est? Essentiellement une revue de traduction et de philologie, pour l'appeler comme ça, c'est-à-dire réflexion sur la poétique, la philologie. Donc c'est une revue de traduction, pas sans...
Et parfois de bilingue ou de trilingue, il y a parfois
bien
textes
sûr,
dans les langues.
Écriture française, mais, en même temps, ma langue, la langue mienne, ma langue, celle dans laquelle j'écris, hein, à l'exception, qu'on ne considère pas, puisque c'est des exceptions, de quelques très rares bilingues d'entrée de naissance, comme Esteban, par exemple. Mais ma langue, et là je pense toujours à Hannah Arendt, c'est celle dans laquelle je me permets des choses. Or, la question de la poésie, c'est qu'est-ce qu'une chose? Elle doit montrer qu'une chose n'est pas un étant, c'est-à-dire parmi les autres, accablé par la différence ontologique, mais que là n'est pas davantage une image parmi d'autres, mais que s'il s'agit de choses, choses non pensées, choses non pensées, la trilogie pour la mienne, si vous voulez ça. C'est ça l'affaire
du poète.
Du poète.
Mais Michel Deguy, vous venez de dire aussi, non seulement le mot chose, mais vous venez de dire ma langue, c'est ce dans quoi je me permets des choses.
Je me permets des choses.
Est-ce qu'il faut une langue pour la transgresser un petit peu?
Mais oui, le seul endroit où néologiser, risquer un néologisme, c'est-à-dire cette entrer dans la langue et faire parler sa langue. Vous notez que dans les dictionnaires étymologiques, vous avez très souvent, pour d'innombrables mots, 1223, 1634, certains trucs qui entrent dans la langue. Alors, contre l'invasion épouvantable, profitons-en au passage aussi pour les voir, par le pidgin anglais, je ne sais pas les pidgin anglais, par comment l'appeler, l'anglomanie insensée.
Certains l'appellent le globish pour justement disculper l'anglais de sa responsabilité. L'anglais n'y est pour rien.
C'est insensé que maintenant tout le monde parle. Attendez, que la télévision, une sorte de télévision, appelle ça, je ne sais plus comment, enfin des émissions, tout, que les devantures des malins ne disent pas Noël ou quoi, mais Christmas, machin. C'est insensé. C'est-à-dire peu à peu, comme au Québec, Rémi Gaston Miron, il y a des dizaines d'années, cette espèce de langue qui d'ailleurs n'est pas l'anglais, qui est l'anglais lui-même commercial, prend, s'envahit la langue, fait perdre le sens, si l'on veut, de ma langue, celle avec laquelle je me permets des choses, inventant la pensée.
Cette très belle expression, ma langue, c'est ce où je me permets des choses, ça suppose quand même l'écriture, c'est-à-dire que...
Bien sûr.
Justement, c'est-à-dire que dans ce que vous appelez dans ce que certains appellent le globish, dans le langage du culturel, de la publicité, les mots circulent, mais il n'y a aucune écriture, il n'y a aucune phrase, on pourrait dire.
Ah non, mais Frédéric Vorg, je suis... Oui, bien entendu. Si vous voulez, pour parler là un peu trop rapidement, comme souvent ce soir, il n'y a pas de différence profonde, même avec un A, entre parler, écrire, entre l'oralité et l'écrituration. L'être parlant écrit. Alors, Bon, on connaît toutes les questions de Platon, etc. Mais enfin, l'écriture, précisément au sens que par lequel avait commencé Jacques Derrida, l'écriture, c'est la pensée. Mmh. Hein, la pensée. Les rêves, finalement, les rêves, représentation de mots, représentation de choses, les rêves sont des rêves où les phrases sont là. Autrement dit, les phrases, c'est l'écriture, le phrasé. C'est le phrasé de la langue. Alors, j'en profite pour vous dire, où j'y avais fait allusion tout à l'heure aussi, que pour moi, par conséquent, ce qu'on appelle la rhétorique, ou les tournures de la langue, ne sont pas un deuxième moment. La rhétorique, c'est transcendantal. La grammaire, la philologie, la rhétorique, c'est les transcendantaux du langage.
Bien sûr, il n'y a pas le langage au propre qui serait direct, qui dirait la vérité. Et puis, il y a par-dessus le marché, le poétique et le figuratif.
La figuralité.
Elle est première.
La figuralité du terrestre en tant qu'elle se pense, c'est-à-dire s'écrit, c'est ça la question du poème.
Vous souvenez que Deleuze, par exemple, il définissait le littéral. Le littéral, ça n'est ni le propre, ni le figuré. Le figuré est littéralement vrai.
Oui.
Quand on dit qu'on croit que c'est une métaphore, en fait.
C'est une belle formule de
la vérité.
Deleuze, tiens, j'aurais pas pensé qu'il était capable de ça. Ou plutôt qu'il aurait dit l'inverse. Mais enfin, pour en finir avec
le littéral par-delà le propre et le figuré. Oui. Mais Michel de Guil, ce que vous venez de dire sur les rêves me renvoie à notre thème. Je ne sais pas si vous le trouvez rhétorique, justement, au sens critiquable du terme, cette question de l'inconscient européen et du recours que peut-être quand même, sans distinction avec la philosophie, mais la poésie, en tout cas la culture qui s'oppose au culturel. Est-ce que vous lui faites quand même crédit de cet accès à notre inconscient? Est-ce qu'il faut réouvrir cet espace pour accéder au moins à nos questions cachées?
Oui, alors ce que j'ai suggéré dans notre conversation, c'est qu'au fond, l'inconscient européen, c'était pas le bon.
C'est pas le bon mot.
Oui, l'inconscient européen, la culpabilité, la repentance, tout ce qui s'est inventé d'épouvantable, antimonétaire. C'était quand j'entends l'inconscient européen, je dis attention, c'est de ce côté-là, c'est notre inconscient en tant qu'il nous taraude et qu'il. Oui, alors. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'inconscient européen. Je préférais le conscient européen, le conscient volontaire, le conscient clairvoyant, le conscient. Donc, il lutte avec son inconscient. L'inconscient, parce que, quand même, l'Europe, c'est l'histoire, je n'oublie absolument à aucun moment, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire, attendez, l'Occident qui s'est emparé du monde, 1492, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est tout ça qu'il faut pas du tout oublier. Mais c'est tout ça qu'il faut, comment dire, avaler ne serait pas bon non plus, c'est tout ça qu'il faut penser sans arrêt.
C'est ça, pour précisément le
devoir de penser. Mmh. Il n'y a pas de devoir de mémoire, si on veut, il y a devoir de penser la mémoire, le devoir de penser.
C'est précisément en y pensant qu'on le dépasse, contrairement à ce que pensent certains qui pensent que c'est en refoulant, en oubliant, on reproduit, et en assumant, on peut aller vers cet avenir que vous essayez de réouvrir.
Oui, absolument, ouais. Avec beaucoup d'inquiétude de ce côté-là, comme nous l'avons dit, hein, parce que c'est une tâche énorme. Est-ce qu'on pourra à la fois laisser aller là où elle va la connaissance scientifique qui va partout? N'oublions pas que la connaissance scientifique, la recherche, disait Primo Levi, est le fatum de l'humanité. Mm-hmm. C'est-à-dire, dès qu'une chose apparaît dans la recherche, elle est aussitôt. Et qu'est-ce que promet la recherche? C'est-à-dire, le calcul promet, ne l'oublions pas, la fin de la mort. C'est-à-dire, le voyage, quitter la Terre, l'extraterrestration, depuis laquelle on apercevra petite planète, comme ils disent, là, et remplacer la mortalité par une longévité qui deviendra une quasi-immortalité. La Silicon Valley vous promet l'immortalité.
Est-ce que c'est encore la science ou est-ce que c'est un délire avec la science? Est-ce que le plus grand danger, et malheureusement on s'approche de la fin de cette discussion, Michel de Guil, est-ce que ça n'est pas quand même aussi le mépris commun de certains pour la philosophie, pour la poésie, mais pour la science elle-même? Aujourd'hui, on a une critique de la science qui est une catastrophe autant que la critique de la poésie et de la philosophie. Certaines critiques de la science, c'est-à-dire de la vérité, finalement.
Non, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est la connaissance scientifique qui fait que tout ce qui se passe, c'est pas la recherche, comme on l'appelle, la recherche. regardez les histoires du génome, la transformation du génome humain, la procréation médicalement assistée. Dès, et ce que vient de faire le chinois, je sais plus lequel, dès que la science, la connaissance scientifique rend possible quelques, on appelle ça progrès, en tous les cas, quelques modifications importantes, elle est aussitôt employée, enfin, développée, et c'est notre avenir. C'est notre avenir, mais pas notre avenir.
On trouvera aussi des ressources, j'espère, pour y répondre, Michel Legui.
J'espère bien, Frédéric Borzon. Merci.
Merci infiniment d'être venu ce soir. Matière à penser, c'était notre troisième rencontre autour de l'inconscient européen avec et grâce à Michel Legui, avec aussi Cédric Chatelus, Nino Lima, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms qui vous donne rendez-vous demain avec Ali Magoudi, l'Europe pour dépasser nos peurs. Bonsoir.